bienvenue à vous. Voici le journal d'Hélène Philippe. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Est-ce vraiment le début d'une détente à la frontière ukrainienne? La Russie diffuse l'image de chars qui se replient. Vladimir Poutine nie de pas vouloir la guerre, mais les capitales occidentales doutent de la réalité de la désescalade. La ministre Marlène Schiappa révoltée après les insultes sexistes d'un policier à l'encontre d'une femme qui venait de porter plainte pour agression sexuelle dans son commissariat. Message enregistré par mégarde qui pose encore une fois la question de la prise en compte de la parole des victimes. Dans l'actualité encore, le coup de téléphone entre Donald Trump et Éric Zemmour, les médicaments qui polluent toutes les rivières du monde, et puis PSG Real Madrid ce soir au Parc des Princes, 8e de finale de la Ligue des Champions, l'ambiance est en train de monter. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir je vous emmène dans le métaverse, dans le quoi? Eh bien c'est justement pour ça qu'on en parle, figurez-vous. Qu'est-ce que c'est que cet univers en 3D, cet univers parallèle dans lequel évoluent nos avatars, des petits nous-mêmes numériques qui à terme pourront vivre dans des maisons virtuelles, acheter dans des magasins virtuels, des choses virtuelles avec de l'argent pas virtuel. Qu'est-ce qu'on nous prépare? Qu'est-ce que c'est que ce futur? Est-ce que c'est un progrès? Ou est-ce qu'on doit être terrifié? 01 45 24 7000.
France Inter. La diplomatie semble encore avoir sa chance, mais peut-on vraiment parler de détente à la frontière entre la Russie et l'Ukraine? On va l'entendre dans un instant. Les capitales occidentales sont très prudentes sur le retrait partiel des troupes annoncé par Moscou. Mais à défaut de preuves formelles, c'est tout de même un signe positif auquel s'ajoutent les mots du président russe.
La voulons-nous ou non? Bien sûr que non. C'est pourquoi nous avons présenté une proposition de processus de négociation qui devrait aboutir à un accord garantissant une sécurité égale pour tous, y compris pour notre pays. Quant à savoir comment la Russie va procéder à partir de maintenant, selon le plan, et de quoi dépendra-t-il? De la réalité de la situation sur le terrain. Qui peut dire comment cette situation va évoluer? Personne pour l'instant. Cela ne dépend pas que de nous. Mais nous avons l'intention de parvenir à un accord avec nos partenaires sur les questions que nous avons décidé de résoudre par la voie diplomatique.
Vladimir Poutine, traduit par Sylvain Tronchet, qui ne veut pas de la guerre, dit-il. Mais le Kremlin ne détaille ni le calendrier ni l'ampleur du retrait qui aurait commencé à la frontière ukrainienne. Les images de blindés chargés sur des trains témoignent-elles d'un vrai repli? Je me tourne vers vous. Bonsoir Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir.
Quelle est donc la réalité de cette désescalade annoncée?
Ah, vous savez, on peut toujours regarder les photos de militaires russes sur les réseaux sociaux, mais pour l'heure, il est vraiment impossible de connaître la réalité de ce retrait. C'est d'ailleurs le Premier ministre britannique Boris Johnson qui résume le mieux l'affaire lorsqu'il explique que les renseignements dont il dispose ne sont pas très encourageants. Comprenez les informations remontées via les satellites par les services secrets. Une méfiance confirmée d'ailleurs par les présidents français et américains qui expliquent vouloir vérifier, mot utilisé avec des guillemets, le début du retrait russe, ce que le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian résumait un petit peu plus tôt avec cette formule « Les paroles, c'est bien, les actes, ce sera encore mieux », une phrase qui résume parfaitement l'état d'esprit général d'une grande partie des pays occidentaux. C'est ainsi que le chef de l'OTAN parle, lui, d'un optimisme prudent. Même réserve pour les Allemands qui estiment que cette annonce est bon signe, mais qu'il doit être suivi de faits. Conséquence, pour l'heure, certains ne changent pas d'attitude. Les Norvégiens, par exemple, ont annoncé l'envoi supplémentaire de 50 à 60 soldats en Lituanie. Les politiques méfiants, l'annonce russe de retrait de certaines troupes fait en tout cas des heureuses. Les bourses européennes qui, elles, sont reparties à la hausse.
Merci beaucoup Nathanaël Charbonnier. Le président américain doit encore prendre la parole sur le sujet tout à l'heure dans la soirée. C'était il y a 6 mois, la chute de Kaboul en Afghanistan. Et depuis ce matin, on vous donne à entendre ce qu'est devenu le pays, repris en main par les talibans, menacé de famine, étreint par la peur. On vous donne aussi des nouvelles de 2 jeunes Afghanes qui chaque semaine envoient des messages vocaux à Caroline Gillet pour raconter leur quotidien. Ra, 22 ans, lui a raconté cet épisode éprouvant dernièrement. Un trajet en voiture avec son fiancé. Au premier checkpoint, on la force à s'asseoir à l'arrière. Ça ne se fait plus, une femme à l'avant. La suite, c'est Ra qui la raconte.
Tout à coup, la voiture a sauté de droite à gauche. On venait d'avoir un accident avec une voiture de talibans. Oh mon Dieu, on avait tellement peur. Notre voiture était super abîmée. Un groupe de passants s'est regroupé pour voir ce qui s'était passé. Et le taliban voulait partir, mais les gens ne l'ont pas laissé. Il disait, vous avez tort, il faut rembourser les frais de réparation. C'était génial de voir ça. Je me suis dit, si tous les gens d'Afghanistan faisaient pareil, si on ne se laissait pas faire, je suis tellement désolée pour mon peuple, pour mon pays, de voir qui nous dirige. Et je pense aux autres pays. Ils envoient des gens dans l'espace. Et nous, ici, regardez-nous. Nos dirigeants se préoccupent des tenues vestimentaires des femmes, de leur éducation, de leurs droits, ce qu'elles ont ou pas le droit de faire. C'est tellement déprimant.
Ra, qui avant la reprise en main du pays par les talibans, travaillait, étudiait. Son témoignage en longueur, vous l'entendrez prochainement dans Inside Kaboul de Caroline Gillet.
Allez, la suite ce soir, c'est la question une nouvelle fois posée de la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles.
Comment sont-elles accueillies quand elles viennent déposer plainte au commissariat ? Propos odieux aujourd'hui d'un policier d'un commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris qui insulte après son départ une plaignante, la traite de pute, discussion entre collègues enregistrée par mégarde sur le répondeur de la plaignante de 34 ans, truffée d'insultes donc, la ministre chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa outrée.
Révoltée par les propos que j'ai entendus, qui sont inqualifiables, sont des propos qui me mettent hors de moi. Personne n'a le droit de parler comme ça d'une femme qui veut déposer plainte pour des violences sexistes et sexuelles, encore moins le policier qui est chargé de traiter le dossier ou de prendre sa plainte. C'est scandaleux, ça va à l'encontre de tout le travail que nous menons. Moi, je me démène depuis 2017 maintenant pour faire en sorte que la parole des femmes soit mieux prise en compte dans les violences sexistes et sexuelles, que les policiers et les gendarmes soient mieux outillés, mieux formés, qu'il y ait un lien de confiance entre les femmes et les forces de l'ordre pour qu'elles puissent venir déposer plainte. Je ne laisserai personne et je ne laisserai rien entraver ce lien de confiance entre les femmes et les forces de l'ordre.
Marlène Schiappa avec Mathilde Dehémy, la police des polices a été saisie après la publication du message sur le site Mediapart et le fonctionnaire de police sera suspendu. En bref, Jean-Jacques Bourdin conteste fermement tout agissement susceptible d'être réprimé par la loi après la publication d'un nouvel article de Mediapart révélant que la journaliste Fanny Agostini est à l'origine de la plainte pour agression sexuelle. Enquête de la cellule Investigation de Radio France à lire aussi sur franceinter.fr. Et puis aux États-Unis, un accord à l'amiable entre le prince Andrew et l'américaine qui l'accuse d'agression sexuelle a été trouvé. Le deuxième fils de la reine Elisabeth II va notamment faire un don important à l'association caritative de son accusatrice pour éviter le procès. Les États-Unis, où un autre accord important vient d'être conclu entre le fabricant américain d'armes Remington et les familles des victimes de la tuerie de Sandy Hook, 26 tués dont 20 enfants en 2012. C'est la première fois que la responsabilité d'un armurier est aussi directement reconnue. Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Washington, Sébastien. Les familles ont réussi à contourner la loi qui protège les fabricants d'armes.
Oui, c'est une loi adoptée en 2005 par le Congrès qui bloque les poursuites judiciaires parce qu'elle offre une immunité à toute l'industrie de l'armement quand un de ses produits est impliqué dans un crime. L'arme en question, le 14 décembre 2012, c'est un fusil semi-automatique, un AR-15, et les familles affirment que les publicités de Remington qui mettaient en avant une arme de guerre et non une arme d'autodéfense, ces pubs étaient faites pour attirer les jeunes hommes en difficulté, comme le tireur de 20 ans qui est entré dans l'école primaire de Newtown et qui a tiré 154 coups de feu en moins de 5 minutes. Le procès se profilait pour l'automne prochain parce que les avocats des familles ont ouvert une brèche dans la loi. Il peut y avoir procès en cas de pratiques de vente et de marketing qui violent les lois de l'État ou les lois fédérales. Et en l'occurrence, le Connecticut, où a eu lieu le drame, interdit aux entreprises de promouvoir leurs produits d'une manière qui encourage un comportement illégal, je ferme les guillemets. Concrètement donc, les 33 millions de dollars proposés par Remington, qui est en faillite, sont oubliés. Ça représentait notamment 3,6 millions de dollars pour chacune des 9 familles qui sont encore en justice. Elle devrait toucher plus du double puisque l'indemnisation porte désormais sur 73 millions de dollars.
Sébastien Paour en direct de Washington.
Un coup de fil dont s'est particulièrement vanté Éric Zemmour aujourd'hui.
Échange téléphonique avec Donald Trump. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Les deux hommes se sont parlé une demi-heure.
Oui, ça s'est passé hier, un appel en visio. Donald Trump m'a dit de rester moi-même, que je devais être sincère, raconte Éric Zemmour, le candidat qui a obtenu ce rendez-vous grâce aux représentants des Républicains en France. Pour Jérôme Rivière, venu du RN, qui avait assisté au dernier jour de la campagne présidentielle américaine avec l'équipe trumpiste, la symbolique est importante. Aux États-Unis, Trump est le personnage central de la recomposition politique, dit-il, comme va l'être Zemmour en France. Et c'est aussi l'occasion d'un pied de nez à Marine Le Pen, qui en 2017 avait échoué à rencontrer le futur président américain, attendant en vain dans la cafétéria de la Trump Tower. Marine Le Pen qui a répliqué ce matin lors d'un déplacement à Villers-Cotterêts.
Moi, j'avais voulu le rencontrer avant qu'il soit président. C'était plus intéressant que de le rencontrer après, faut être honnête. Donc, c'est bien qu'il ait au téléphone l'ancien président des États-Unis. Tant mieux pour lui. J'espère que Donald Trump se porte bien. Mais en l'espèce, en l'état, aujourd'hui, il ne représente plus une force politique en activité au moins.
Vous l'entendez, une pointe d'aigreur donc pour Marine Le Pen qui dans cette course au trophée se fait une fois de plus doublée par son rival. Cet automne, Éric Zemmour avait déjà réussi à rencontrer avant elle Viktor Orban, le Premier ministre hongrois qui a finalement donné le point récemment à la candidate RN, lui envoyant une vidéo de soutien.
Éric Zemmour qui est à mi-parcours dans la collecte de parrainage, 250 au pointage de ce soir. Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière valide de son côté les 500. Et ce qui a fait parler aussi aujourd'hui, ce sont ces trois nominations au Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron qui propose une ministre, Jacqueline Gourault, Modem, le président du Sénat, Gérard Larcher, un conseiller d'État, et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, choisit l'ex-procureur général de Rennes, sous l'autorité de laquelle l'affaire des mutuelles de Bretagne, dans laquelle ce même Richard Ferrand était mis en cause, a été classée sans suite. Bonsoir Anne Souhaitemont.
Bonsoir Hélène.
À l'Assemblée nationale, c'est ce qui a fait le plus réagir les députés.
Oui, c'est effectivement le profil de Véronique Malbec qui crée des remous ici à l'Assemblée. Le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, est plus que sceptique.
C'est beaucoup de mépris pour cette institution qui doit être, normalement, s'élever au-dessus de tous les conflits partisans pour en être l'interprète impartial de ce qu'est notre texte constitutionnel.
Des nominations partiales, politiques, même critiques à droite. Le LR Aurélien Pradier estime que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire.
Est-ce qu'on imagine bien à quel point tout ça affaiblit aussi nos institutions ? Moi, je suis stupéfait depuis le début de ce mandat de voir à quel point on a des décisions qui sont prises pour servir les copains, les copines, sans se demander si ça ne vient pas aussi affaiblir nos institutions. Est-ce que les Français ont confiance en la justice de ce pays ? Non, je crois pas. Est-ce que ce type de décision contribue à leur redonner confiance ? Je crois pas non plus.
Du côté de la majorité, on est divisé. Certains défendent la compétence de l'actuelle directrice de cabinet du garde des Sceaux. D'autres sont en revanche gênés aux entournures, dont Sandra Motin, ravie d'avoir une excuse pour ne pas répondre aux journalistes.
Et j'ai mon téléphone qui sonne, sauvé par le rendu.
Le cabinet de Richard Ferrand évoque, lui, une magistrate reconnue par ses pairs et insiste sur le fait que le code de procédure pénale ne permet pas à un procureur général de donner une instruction dans le sens du classement d'une plainte.
Anne Souhaitemont avec Lucien Lefebvre, Richard Ferrand qui réagit lui-même ce soir dans un communiqué avec indignation et consternation, écrit-il, rappelant que la cour d'appel de Douai a aussi classé l'affaire. Que vous vous appeliez Julien Garnier ou Rachid Saïdi, vous n'aurez pas les mêmes chances d'accéder à un master à l'université. Et même jusqu'à 30% de chances en moins si vous avez un nom à consonance maghrébine. C'est le résultat d'un testing réalisé par plusieurs chercheurs que l'on vous dévoilait en avant-première ce matin. Préoccupant pour les présidents d'université et les associations étudiantes, la vice-présidente de la FAGE, Laurine Chabat.
Nous, ce qu'on a, c'est des témoignages des étudiants qui se retrouvent sans master, qui estiment avoir été discriminés parce que, par exemple, leur ami qui avait le même parcours qu'eux a été pris dans le master, mais n'était pas d'origine maghrébine, par exemple. C'est des témoignages qu'on a déjà eus, mais on n'avait pas de chiffres pour le montrer. Maintenant, on sait que c'est un fait. Ce n'était pas possible que l'université et les établissements d'enseignement supérieur en général y échappent. Mais il y avait comme une sorte d'omerta en fait autour de tout ça. On dit que l'enseignement supérieur est un lieu d'émancipation, que tout le monde peut y trouver sa place, etc. Dans les faits, c'est pas le cas. Et dans les faits, il y a des discriminations. Et c'est vrai que maintenant, on ne pourra plus dire qu'on ne sait pas. Des mesures vont devoir être mises en place. Donc espérons en tout cas que ces chiffres, cette enquête fassent du bruit. et puisse aussi faire réagir au niveau des politiques publiques menées à l'université.
La vice-présidente de la FAGE, Laurine Chabal, avec Claire Chaudière.
C'est une décision très importante pour toutes les victimes de terrorisme.
La Cour de cassation se penchait aujourd'hui sur la question ô combien complexe du périmètre des parties civiles. Qui peut être reconnue ou pas victime ? Cible directe, évidemment. Et celles qui le sont moins, mais durablement traumatisées. Le débat portait notamment sur l'attentat de Nice en 2016. Et la Cour de cassation a donc décidé de faire évoluer les choses, Sophie Parmentier.
Deux survivants de l'attentat de Nice avaient saisi la Cour de cassation. D'abord cet homme qui avait héroïquement coursé à pied le camion du terroriste, réussissant à atteindre sa cabine, prenant un risque incroyable. Mais jusqu'à aujourd'hui, des juges estimaient qu'il n'était pas une victime pénale, car il n'avait pas été une cible directe. Pas plus que cette femme qui, entendant des coups de feu et des cris sur la promenade des Anglais, avait réussi à sauter sur la plage. Ce soir, la Cour de cassation estime que ces deux personnes sont bien des victimes et elle élargit le statut des parties civiles, explique maître Patrice Pinozzi, avocat de plusieurs victimes.
Même si on n'a pas été directement mis en danger, le fait d'avoir agi, par exemple, pour essayer d'appréhender les terroristes, qui était le cas de la personne qui avait couru derrière le camion, ou le fait d'essayer de se sauver face à la menace, eh bien, ces dommages sont considérés comme étant en lien avec l'attaque terroriste et justifient donc de pouvoir être partie civile au procès, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et évidemment, cette décision est donc de principe et elle vaudra maintenant pour tous les attentats terroristes pour déterminer qui peut être partie civile.
Alors, au procès des attentats du 13 novembre, où quelques 2500 parties civiles se sont déjà fait connaître, la Cour d'assises reconnaîtra sans doute beaucoup de victimes qui risquaient d'être considérées jusqu'alors comme des témoins dits malheureux.
Sophie Parmentier, impossible de dire encore si l'explosion était accidentelle ou criminelle à Saint-Laurent-de-la-Salanque dans les Pyrénées-Orientales. Un huitième corps a été extrait des décombres aujourd'hui. Et voici à présent une conséquence de notre consommation de médicaments. Toutes les rivières du monde sont polluées par des résidus de produits pharmaceutiques. C'est le résultat préoccupant d'une étude internationale de l'université de York au Royaume-Uni. Bonsoir Célia Kiré.
Bonsoir Hélène.
Des chercheurs ont étudié les rivières des 5 continents et certaines sont plus polluées que d'autres.
Oui, notamment dans les pays en développement comme la Bolivie ou le Pakistan, car ils ont accès à des médicaments, la population en consomme, mais les États n'ont pas les moyens de traiter correctement les eaux. Les chercheurs ont réalisé des prélèvements dans plus de 250 rivières, dont l'Amazone, le Mississippi ou le Mékong. Elles contiennent toutes des résidus d'antidouleurs, anti-inflammatoires, antibiotiques ou antidépresseurs. Mais un quart des sites testés présentent des niveaux de pollution potentiellement dangereux. Jeanne Garrick est directrice de recherche émérite à l'INRAE.
Clairement, toute cette contamination, je dirais, généralisée au niveau de la planète, des milieux aquatiques, c'est quand même un vrai souci. On peut avoir des concentrations dans les poissons, dans les organismes. Ces organismes-là, eux-mêmes, peuvent être consommés par l'homme. Certaines molécules pharmaceutiques peuvent avoir des effets sur, par exemple, des comportements de reproduction. Un des gros soucis, c'est la présence des antibiotiques dans l'environnement. En fait, en cascade, on arrive à des problématiques pour la santé de l'homme.
Et dans les pays riches, il y a de meilleurs systèmes de nettoyage des eaux. Elles sont donc moins contaminées. Selon les chercheurs, il est important d'investir dans les pays en développement pour éviter cette pollution en cascade, qui s'ajoute d'ailleurs aux pesticides déjà présents dans les rivières.
C'est Yakira et nous sommes à la veille de bonnes nouvelles. Les soirées en boîte de nuit, le club sandwich dans le train, tout cela sera possible à partir de demain. Novak Djokovic, lui, ne se fera pas vacciner. Le Serbe est même prêt à rater tournoi et trophée plutôt que de le faire. Il l'a dit aujourd'hui à la BBC. Et puis il y aura de la mégastar ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Un beau duel. Kylian Mbappé, Karim Benzema, PSG Real Madrid. Ce sont les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et l'ambiance commence à monter, Cédric Guillou.
Et effectivement, il y a de nombreux supporters du Paris Saint-Germain qui affluent vers le Parc des Princes. Alors c'est d'abord une bonne nouvelle pour eux, hein, parce que vous le savez, les jauges dans les stades ont été levées le 2 février dernier. Du coup, ce match Paris Saint-Germain-Real va pouvoir se jouer dans un Parc des Princes à guichet fermé. Alors avec des supporters parisiens qui ne sont pas toujours très confiants, hein, d'une part parce que les performances du PSG sont très irrégulières depuis le début de saison. Et puis d'autre part parce que c'est le Real Madrid en face. Écoutez, celui qui veut qu'on l'appelle FX avant ce match.
Le Real vient sans complexe. Paris a aucune assurance dans son jeu. Paris est fébrile. Même si on est à domicile, Real par favori.
Alors c'est un avis qui est partagé par pas mal de supporters que nous avons croisés avant ce match. Mais il y a aussi ceux qui pensent que cette double confrontation en Ligue des Champions en huitième de finale face au Real Madrid peut faire basculer la saison du Paris Saint-Germain du bon côté. C'est le cas notamment de Marco.
Je pense que le déclic va peut-être se faire par rapport à la phase finale de Ligue des Champions. Avec de prouver qu'avec cette équipe-là, ils peuvent aller au bout et aller chercher la Ligue des Champions.
Et la première étape vers cette victoire finale, c'est donc ce soir avec plus de 40 000 supporters parisiens qui seront derrière Kylian Mbappé et ses coéquipiers.
Et coup d'envoi du match, ce sera donc tout à l'heure 21h au Parc des Princes, 8e de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid.
Et ben on a trop hâte, figurez-vous. Merci beaucoup Hélène Philippe.